Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Deuxième entretien avec vous, Sœur Déborah. Bonjour, Sœur Déborah.
Bonjour, Nathalie.
Alors, je rappelle que vous avez une âme de missionnaire, que vous avez parcouru le Brésil, vous avez parcouru la Nouvelle-Zélande, vous êtes partie au Pérou, etc., etc. Nous voyageons jusqu'à vendredi avec cette histoire de Notre-Dame de Guadeloupe. C'est l'histoire de tout un peuple, de tout un pays. C'est une situation aussi, un contexte historique sur lequel vous allez revenir, car c'est important. On ne peut pas évoquer ce miracle de l'image, ce miracle aussi de l'apparition de Marie, sans revenir aussi sur les faits historiques de tout un peuple. On vous écoute.
Oui, merci Nathalie. La particularité de ce peuple auquel la Vierge Marie est apparue. Et je voudrais vraiment appuyer beaucoup sur ce qu'est ce peuple, parce qu'aujourd'hui, il a muté, c'est sûr. Mais à l'origine, c'était d'ailleurs une multitude de peuples, une mosaïque de peuples, en fait, qui habitaient donc le territoire mexicain. Et parmi eux, il y avait donc ce qu'on appelait les Mexicas ou Aztèques. Hein. Et ils sont descendus du nord du Mexique jusque vers l'actuel Mexico, où ils se sont installés vers 1325. Et puis, ils ont développé toute une culture. C'était un peuple assez guerrier, mais je dois dire aussi avec une très grande douceur. Très curieusement, il y avait les deux. Et donc, leur particularité, comme je l'ai dit la dernière fois, c'était de se sentir missionnés par la divinité. Alors, ils avaient une multitude d'idoles, il faut le dire, la lune, le soleil, les étoiles et bien d'autres. Hein. Mais le plus fort, c'était le soleil. Et ils sentaient qu'ils devaient donner le plus qu'il y a de plus précieux à la divinité, à savoir le sang et le cœur de leurs victimes, pour permettre au cycle cosmique de continuer. Ils vont donc effectivement se battre avec toutes les autres tribus, non pas tant pour les dominer que pour avoir des prisonniers à offrir. C'est incroyable. C'était ça le but. Donc, vous voyez, ils étaient vraiment focalisés sur une mission religieuse. Et ils vont développer autour de ça toute une culture très importante. Et au moment de la conquête espagnole, les Espagnols ont été absolument bluffés par ce qu'ils ont découvert. Ils arrivaient pourtant d'Espagne à une époque où il y avait quand même tout un développement hein, qui s'était vécu. Et quand ils sont arrivés devant la ville de Mexico, ils n'en revenaient pas. Pour vous donner une petite idée, à cette époque, Paris était peuplé de 65 000 personnes. Eh bien, sur la ville de Mexico, il y en avait 250 000. Hein. Pour vous dire le développement et de ces sites, cette cité qui a été construite sur un marécage. On leur avait donné, en fait, on leur avait accordé, parce que c'était des guerriers, mais ils sont arrivés là humblement. On leur a accordé donc un immense marécage, c'était un espèce de lac marécageux, l'actuel Mexico, qu'ils ont asséché en partie et d'autre part, ils l'ont construit. Et c'était une ville avec des avenues, avec des parcs, avec des canalisations qui portaient l'eau potable. Ils avaient une culture importante et une grande finesse au niveau de leur vocabulaire, de tout ce qui est l'oralité. Il y avait une poésie très développée. Voilà. Et donc, il me semble important de dire que donc à cette époque, au moment de juste avant la colonisation, ils sont hyper développés et surtout ils attendent le retour d'un de leurs dieux. Et ce dieu dont ils attendent le retour s'appelle Quetzalcoatl et qui devrait revenir prendre le pouvoir. Et ce dieu, il est blanc, il est le seul de leurs dieux à être habillé en noir. Et ils n'aiment pas d'ailleurs ce dieu les sacrifices humains, mais eux, ils les ont quand même développés. Hein. Et ils attendent ce Quetzalcoatl. Et à l'époque de l'apparition, ça se trouve être à une fin de cycle pour eux, de cycle d'années, de 52 ans. Tous les 52 ans, c'est un nouveau cycle. Et ils attendent le retour imminent de ce dieu. Et donc, on est à un moment clé. Et puis, juste avant l'apparition, vers l'année 1530,
l'apparition en 1531.
L'apparition est en 1531, mais en 1530, il y a eu des phénomènes astronomiques. Enfin, il y a eu des signes dans le ciel, des comètes, une éclipse. Pour eux, c'était extrêmement important et significatif. Et donc, ils étaient particulièrement éveillés, attendant un événement particulier. Et donc, ça, c'est un petit peu pour vous donner le contexte historique. Et voilà que Cortés arrive en 1519. Donc, il arrive, et il arrive avec seulement 3 navires au point de départ, très peu de missionnaires, 5 prêtres peut-être, mais il arrive... Il débarque sur la côte mexicaine le vendredi saint. Il est donc habillé de noir. Il a la croix au cou. Il est blanc. Il est barbu. Et donc, quand Cortés arrive, ils ont été convaincus que c'était l'arrivée de ce dieu. Et c'est pourquoi le début de la conquête a été très facile, le début. Après ça, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais le début, on l'a laissé rentrer. On lui a montré toutes les richesses. Et donc, il y a eu comme une espèce de convergence entre une attente du peuple et en même temps, quelque part, le dessein de Dieu de visiter et de sortir de l'ignorance et du mensonge tout un peuple qui faisait des milliers de sacrifices humains régulièrement. C'était quand même assez terrifiant. Cette rencontre entre l'attente profonde d'un peuple qui ne savait pas finalement ce qu'il attendait et l'arrivée de ce message qui n'est pas passé par des voies paisibles et pacifiques, mais par quand même un terrible traumatisme dont je vais dire deux mots. C'est le mystère de la croix. Et tout ce peuple l'a vécu. Et ils ont reçu la lumière, mais ils n'ont pas reçu la lumière sans la croix. Et la croix a été plantée de façon extrêmement violente. Et j'en dirai deux mots. Donc, les Espagnols sont arrivés. Ils ont été au début accueillis. Ensuite, évidemment, il y a eu effectivement d'énormes résistances, mais parce que ils se sont comportés comme, évidemment, des guerriers. Si vous voulez, ils ont pris possession du lieu, des personnes, et puis ils se sont comportés en tyrans. En tirant par rapport à un peuple qui, lui, pensait que les dieux arrivaient et que ça y est, ça allait être extraordinaire. Et au lieu de ça, ça a été une dépression terrible parce qu'ils ont perdu leur richesse, des quantités d'or, de diamants, de toutes les richesses qu'on peut imaginer. Mais ils ont perdu toute leur ville qui a été saccagée. On les a mis au siège, eau et nourriture, donc ils n'avaient plus à manger, ils étaient morts-vifs, tout le peuple. Et puis après ça, quand les Espagnols ont pris possession, ils ont été des esclaves littéralement.
J'allais dire, mais là vous décrivez une forme de persécution.
Je dirais une forme d'oppression, plus que de persécution. Une oppression, c'est-à-dire que c'est un pouvoir politique, parce que ceux qui étaient ce qu'on appelle la première audience, c'est-à-dire les premiers gouvernants de ce groupe espagnol, dont Cortés ne faisait plus partie. Il était parti à ce moment-là au Honduras pour d'autres guerres. Et ceux qu'il avait mis en place se sont comportés comme des tyrans et ont mis le peuple à genoux, littéralement. Et ce que je voudrais dire, quand même, de très important, c'est que ce peuple était désespéré. Absolument désespéré, et que ils voyaient que tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'alors, c'était par terre, et pas seulement les richesses, mais surtout leur espérance religieuse, parce que le soleil continuait à se lever, il n'y avait plus de sacrifices, il n'y avait plus de temples, puisque les premiers missionnaires ont détruit les temples, mais Malgré tout, le cycle des astres continuait à son cours et donc ils se sont dit, eh bien nous étions dans l'erreur, il n'y a plus rien. Ils étaient perdus à tout niveau et c'était tellement catastrophique, Nathalie, tellement sans espoir. Les premiers missionnaires ne pouvaient pas évangéliser parce que, tout simplement, il y avait un contre-témoignage des catholiques espagnols qui se comportaient comme des tyrans. Et comment pouvaient-ils, ces pauvres Indiens, recevoir le message évangélique que les franciscains essayaient de donner? Et donc, il y avait une dépression tellement profonde que l'évêque du lieu, le premier évêque, Juan de Zuma, de Zumarán, qui a écrit au roi d'Espagne, « Si Dieu n'intervient pas de sa propre main, cette terre est sur le point d'être totalement perdue. » Et là, c'est vrai que je dirais que notre époque aussi nous ramène un petit peu à des événements que je suis en train de raconter, parce qu'on est quand même dans une époque très difficile où beaucoup sont complètement perdus.
Et désespérés.
Et désespérés et ne savent pas où est la lumière. Et c'était bien le cas de ces Indiens. Et pourtant, la lumière était là. Elle était dans l'évangélisation, puisqu'il y a eu quelques missionnaires qui sont arrivés. Mais le message n'était pas reconnaissable ni identifiable à cause du mauvais témoignage de l'Église sur place. Pas de l'Église, mais de ceux qui se disaient chrétiens. Les premiers évangélisateurs, les premiers religieux étaient des gens remarquables, hein, et l'évêque aussi. Mais tous les catholiques espagnols autour se sont comportés réellement comme des, je ne voudrais pas dire de choses désagréables ni de jugements, mais des contre-témoignages flagrants qui empêchaient une réelle évangélisation.
Alors moi, je vous propose ce temps de radio toute la semaine, ce temps où nous arrêtons, où nous relisons un peu l'histoire du Mexique, de tout un peuple, et l'histoire aussi de ces apparitions. On y vient tout doucement, on va en parler dès demain de ces premiers signes de Notre-Dame de Guadalupe. Sœur Déborah, merci pour toutes ces informations historiques, car on ne peut pas passer à côté de ces apparitions sans relire un peu l'histoire du Mexique. Je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, demain à la même heure. Et merci.